The Collective Laboratory.
Mudam.
The Collective Laboratory est un projet développé par Lina Jeanne et Clémentine Proby au Mudam, le musée d'art contemporain du Luxembourg, de novembre 2023 à janvier 2024, pour aborder, questionner et repenser pratiques artistiques collectives et méthodologies institutionnelles. Six collectifs européens, évoluant dans les champs de l'édition et de la performance, ont été invités à occuper les espaces d'exposition du musée, les transformant temporairement en résidences d'artistes. Le temps de 2 semaines, leurs membres ont fait des galeries vides leur espace de production, de répétition et d'expérimentation. Dans le cadre de ce projet, Théo Robin Langlois réalise un format radiophonique pour Du Radio, en 6 épisodes.
Je me souviens d'être dans le train et avoir dit « Non mais là, c'est plus possible, je suis en situation de burn-out et je crois que mon correcteur orthographique a écrit out, A-O-U-T et je lui ai dit « Ah mais ça ferait un nom trop bien si un jour on crée une maison d'édition ». Et puis maintenant, c'est aussi assez cohérent avec une sorte de contexte un peu post-capitaliste ou quelque chose comme ça voilà, qui nous intéresse.
Du coup, on est sur plusieurs villes. Par exemple, avec Fanny, on est à Marseille. Théo et Yann sont à Paris. Et Benny est à Lyon. Donc on est un peu sur ces 3 villes.
Au sein du travail éditorial, la désignation de qui fait quoi, par exemple dans les colophons, on se pose les questions, est-ce que si le design est fait par quelqu'un de burn-out, est-ce qu'il faut mettre design graphique par la personne, est-ce qu'il faut mettre design graphique par burn-out? Et au sein du collectif, on n'a pas toutes et tous la même opinion là-dessus, du coup on discute pas mal aussi de cette question de comment apparaît burn-out, comment apparaissent les gens au sein du collectif.
Quand j'ai commencé à travailler sur les projets de burn-out, c'était souvent des petites contributions et tout. Ça, c'est vrai que ça me tenait à cœur d'avoir mon petit nom mentionné en colophon ou quoi. Maintenant, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Et je pense qu'aussi là, on se stabilise autour d'un cœur de membres d'un collectif, j'ai l'impression, qui fait que ça donne beaucoup plus un sentiment d'appartenance à un groupe.
C'est quelque chose qui me travaille beaucoup, mais par exemple, moi, quand je design un livre pour Burnout, j'apparais, mon nom apparaît dans le colophon, on met design graphique Théo, Pal, et quand c'est les directrices de publication, leurs noms, ils apparaissent pas forcément. Et du coup, il y a pas le même rapport au travail et pas le même travail qui est visibilisé. C'était plus par rapport à ça que je disais, et c'est des réglages un peu qu'on fait un peu au fil des expériences, quoi. C'est vrai qu'au début, cette question de la disparition de l'auteur, de l'anonymat, du piratage, de l'appropriation, toutes ces choses, c'est vrai que ça construit un peu burn-out et on expérimente des choses du point de vue éditorial, jusqu'à parfois avoir des problèmes avec d'autres maisons d'édition, avec d'autres auteurs, autrices sur des questions de droit et de propriété. Mais c'est un peu des choses sur lesquelles on est revenu maintenant. Mais tout ça, ça a forgé un peu ce qu'est burn-out maintenant, quoi. Et on se rend compte du potentiel et de la force qu'a l'édition, qu'a une forme imprimée pour réunir des choses, compiler des documents, compiler des textes. Ces livres qu'on faisait étaient des readers à partir de textes qu'on rééditait sans demander les droits. Et nous, on les considérait vraiment comme des boîtes à outils. Du coup, pour nous, ils devaient circuler le plus possible.
On a eu ce projet de collection 39.5 avec Fanny, du coup. C'est comme ça aussi que je me suis rapprochée de Burnout. On était un peu en mode Burnout, 39.5, c'est un peu genre une fièvre, une grosse fièvre. Les textes, les trois premiers textes, c'était quand même des textes où il y avait pas mal de fièvre, en tout cas assez chaud ou, et vénère aussi. 39.5, c'est une collection qui s'inscrit dans une perspective queer et féministe, qui donne de la place à d'autres types de langues. Le premier livre qu'on a sorti, c'est de la poésie écrite en anglais, puis où il y a tout un dispositif aussi de traduction pensé par l'autrice, avec des traductions qu'elle nomme affinitaires, donc qui sont faites en live par des amis à elle. Il y a beaucoup de QR codes dans Rose de Rage qui peuvent t'amener dans des endroits différents, mais notamment sur des playlists. La musique et les chansons sont assez présentes, et aussi leurs remixes, donc ça ponctue la lecture. Il y a un peu une urgence, quand on lit, on voit, il y a beaucoup de retours à la ligne, il y a beaucoup de moments aussi très vénères. Il y avait aussi toutes ces musiques, il y avait plein de contenus, il y avait genre des photos, il y avait aussi ces QR codes qu'il avait lui placés. Et en fait, on a fait le choix pour Rose de Rage, et puis avec, du coup, en discussion bien sûr avec Théophile, de laisser les choses un peu telles quelles pour bien signifier ce truc de geste comme ça, assez urgent. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. Pour mes parents, Cascada, c'est de la musique boum boum. Ça l'est toujours. Ce n'est donc pas de la musique. Pour mes parents, Cascada est vulgaire. Une meuf qui se chauffe à tout foutre en l'air dans une bibliothèque avec un gros beat derrière. Bye bye Cascada. Je n'avais pas eu le droit d'acheter de CD ou bien un single de Cascada, je l'écoutais à la radio. Je dansais mi-techno, mi-sexy à 10 ans, aussi sur toutes les stars de la radio. Rihanna, Nadia, mon dieu, Nadia, Britney Spears, The Pussycat Dolls, Paquito. Mais avec Cascada, je me lâchais à fond, chaque fois. À la campagne stéphanoise, dans ma chambre, j'avais besoin d'avoir Cascada à fond dans mes oreilles et de danser le plus sexy possible, le plus vite possible. La chanson à la radio n'étant jamais en entier et je ne savais pas quand elle repasserait, alors si ma mère ou mon père ou quiconque avait le malheur de se saisir de la poignée de la porte de ma chambre, scandale. Je me souviens de moi me jetant sur la porte pour la repousser, demandant à la personne d'attendre la fin de la musique, logique. Mais j'ai aussi le souvenir de grands moments où l'un de mes deux parents n'a pas dû apprécier qu'on lui referme la porte au nez, logique, prier de patienter à l'extérieur de ma pièce le temps d'une musique. Si mon moment Cascada était gâché, je me mettais à deeply haïr la personne responsable de cet acte. No Cascada, no peace.
une bonne partie de notre travail constitue à rassembler des paroles d'éditeurs et d'éditrices autour de nous pour dresser une sorte de paysage un peu des pratiques qui nous entourent, pour aussi renforcer le milieu de l'édition indépendante. Les maisons d'édition, elles mettent pas vraiment leurs PDF en libre accès, mais il y a plein d'autres endroits où on peut en trouver, les infos kiosques, les librairies pirates en ligne et tout ça. Et du coup, nous, on s'inspire directement de ça.
C'est important que il y ait le livre qu'on peut trouver en librairie et qu'on achète, mais que quand on est intéressé par le contenu, qu'on y ait accès, qu'on n'ait pas à acheter pour pouvoir lire.
Et quand on se met à produire des ressources, produire des contenus, ou en tout cas rééditer des ressources et rééditer des contenus, pour nous c'est évident que ça doit être en ligne et que ça peut être accessible. Mais c'est un projet politique en fait, de contrôler les outils, de mettre en commun le savoir-faire et d'être indépendant et autonome à tous les niveaux, quoi.
Tous, on est bénévoles, on ne se rémunère pas par rapport à notre travail. C'est aussi un gros enjeu pour nous, un endroit de réflexion. D'ailleurs, on va aussi prendre le temps de réfléchir à structurer ça, à voir comment on peut peut-être réussir à valoriser aussi ce travail avec des sous.
Il y a bien sûr cette idée d'aller chercher de l'argent là où il y en a et de la ramener là où il n'y en a pas et de faire des ponts, en fait. Et que nous, en étant un peu comme une sorte de plateforme ou un nœud ou un outil, il y a des choses qui arrivent un peu de tous les horizons, quoi. Et qu'on essaye après de repartager. Moi, j'aimerais pouvoir travailler de manière totalement indépendante, autonome, ne pas avoir à travailler avec des institutions, ne pas avoir à demander de l'aide à telle ou telle fondation. Et par exemple, ça serait génial si derrière 39.5, il n'y avait pas de logo, des personnes qui donnent... Enfin, on aimerait pouvoir être indépendant et autonome sur les projets. Mais en fait, c'est extrêmement compliqué d'un point de vue économique. Enfin, c'est pas possible et du coup... on est obligé d'aller... Enfin, moi, en tout cas, je me sens obligé d'aller faire quelques concessions pour porter à bien les projets, pour essayer de rémunérer le plus possible les gens. Voilà.
Il y a 4 points.
Il y en a encore.
Ah non, il y en a encore un peu. Ah, voilà, là, on arrive à la fin du premier. Ouais, du coup, ça c'est le colophon. Mmh. Et en fait, toutes les informations, par exemple, relecture par. D'ailleurs, il y a une coquille là, mais. En fait, toutes les informations qui varient un peu en fonction des livres,
ouais.
Et ben, ça va chercher automatiquement dans un LibreOffice dans lequel il y a toutes nos infos.
Trop bien.
Et du coup, en fait, quand on génère les PDF,
ouais.
Ça va chercher dans nos bases de données les informations qu'on a rentrées pour référencer nos livres et ça met tout seul.
Donc, c'est automatisé, quoi.
C'est automatisé. Ouais. Après, tu vois, il y a encore du travail parce que, par exemple, là, il y a une virgule entre coller et la virgule.
Oui, oui, oui.
Très probablement parce que dans le tableau Excel. Enfin, c'est pas un tableau Excel.
Il y avait un espace. Entre,
du coup, il y a encore un gros travail, mais dans l'idée, voilà, c'est que ça se passe un peu automatiquement. De la même manière que là, en fait, la couverture, elle est générée à partir des infos.
Ouais. Ok. Trop bien.
Ouais.
Au moment des émeutes suite au meurtre de Naël. On était en plein dans le travail éditorial sur politiser l'enfance et il y avait un chapitre qui était pile sur le sujet et la sortie était prévue pour 3 mois plus tard, quoi. Donc on allait louper le créneau et Théo vient me voir et il savait que je bossais par ailleurs sur un autre projet qui pouvait permettre de très rapidement produire du coup un document web à partir du texte qu'on avait pour l'enfant à problème, qui était le texte qu'on a publié. Et du coup, en une après-midi, on passe d'un fichier qui est un fichier ODT, donc un traitement de texte, à une page web qu'on peut disséminer très facilement, qui peut être lue sur téléphone, sur ordi. Donc il y avait déjà cette volonté préexistante de Burnout de diffuser ces textes. Et il y a un autre livre aussi qui nous a un peu... ouais, pas mal fait réaliser des choses. C'est le dernier là qu'on a publié, La morale de la Xerox. La moitié de ce texte, donc c'est l'une des deux parties de ce texte, est de Clara Balaguer. Et Clara Balaguer, elle explique qu'aux Philippines, la seule manière de se procurer des livres, c'est de les pirater. Enfin, pas la seule manière, mais que c'est très difficile d'accéder aux livres quand on a très peu de bibliothèques ou de librairies dans le pays, et aussi très peu de livres. Et du coup, il faut les xeroxer. Et du coup, avoir une copie qui va souvent être assez dégradée. Ce qu'on veut faire, c'est proposer vraiment une plateforme, un outil sous licence libre, donc, parce que c'est ce qu'on fait, qui pourrait être réutilisé par d'autres collectifs, d'autres maisons d'édition qui souhaiteraient, elles aussi, donner accès à leur texte pour leur lectorisme. Et ce, de manière inconditionnelle. Ce qu'on a envie de faire, c'est un peu garder l'esprit de cette première, de ce premier site qui a pour les éditions Burnout. Et là, c'est un peu une forme d'esthétique par défaut qui reprend un peu l'esthétique du web des années 2000. Et donc, cette simplicité, elle permet aussi une forme d'efficacité où, enfin, ça va dans toute cette réflexion d'accessibilité. Si t'as une connexion de merde et que t'as un site qui est très lourd, bah tu vas juste pas pouvoir le charger. Là, l'objectif, c'est que même si t'as une mauvaise connexion, tu puisses quand même charger tout le livre très facilement. Donc on fait des choix en fonction de ça. Donc ça va être des sites qu'on appelle statiques et pas dynamiques, où tu dois aller chercher des contenus dynamiquement tout au long de ta navigation. Donc ça, c'est à la fois un choix graphique, mais qui a des répercussions techniques évidentes. L'objectif, c'est d'avoir une sorte de noyau qui pourrait être la base pour du coup ces différents collectifs qui voudraient s'approprier ça, de construire leur propre saveur pour ce logiciel. Nous, notre plateforme, elle aura la saveur Burnout, mais j'imagine bien des saveurs de plein de maisons d'édition indépendantes qui seraient trop belles. Cette diffusion totale et absolue. Nous, dans nos versions web et dans notre site, on aura aussi une sorte de petit manifeste justement cette saveur qui est impliquée par le logiciel. Parce qu'en fait, les logiciels qu'on utilise, ils n'auront pas cette rigueur typographique qu'a InDesign. Justement, il y aura des petits bugs. Parce qu'en fait, c'est aussi l'idée du truc, c'est que c'est notre outil. C'est qu'on le développe avec nos petites mains et que y aura de toute façon des glitches à des endroits. Ça, il y a déjà des gens qui revendiquent depuis des années cette esthétique-là dans le monde du print et du web to print, du coup. Et ça, on va, je pense, la revendiquer avec affirmation.
D'ailleurs, elles sont toutes différentes à chaque fois, parce que tu vois, là, il y a marqué le PDF a été généré vendredi 12 janvier 2024. Mmh. Et comme il va être généré, je crois, tous les jours, ça va être régénéré un peu tous les jours, il me semble. Ça va changer. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper important, là, de les imprimer. Pour, tu vois, les archiver, le fait que c'est les premières qu'on a sorties. Mmh. Et sûrement, dans un mois, ça sera plus les mêmes. Donc, du coup, il faut garder...
On va avoir des archives.
Bah ouais. Moi, j'ai des problèmes déjà de stockage dans ma chambre. Heureusement, j'ai des...
Tu m'étonnes, tu m'as fait genre 30 ans de copie.
Mais heureusement, j'ai des colocs qui sont pas... Du coup, je commence à en mettre de partout. Dans les tiroirs de rangement du canapé, il y a tous les lits.
Non, mais il faut un espace comme ça, là.